chers camarades, chers amis. Alors, je ne vais pas vous parler longtemps de Le Cornu. Je crois que pas grand monde s'y intéresse. Le spectacle pitoyable de la classe politique pour la formation d'un gouvernement illustre à quel point cette pseudo-démocratie parlementaire est au bout du rouleau. Pendant des décennies, la droite et la gauche ont pu alterner au pouvoir l'usure des uns permettant aux autres d'être élus à nouveau. Mais sous les coups d'une économie en crise, ce système bien huilé s'est grippé. Ces partis institutionnels, qui ont tous mené une politique contre les travailleurs, sont aujourd'hui largement discrédités auprès des électeurs. Oui, la bourgeoisie de ce pays a de plus en plus de mal à trouver des représentants politiques capables de faire accepter aux classes populaires ces nouvelles attaques. Car les véritables dirigeants de la société ne sont ni à Matignon, ni à l'Élysée. Ils sont dans les conseils d'administration des grands groupes capitalistes. Ce sont les grands actionnaires, les financiers, ce sont les multimilliardaires, français et autres, qui étendent leurs tentacules pour exploiter les travailleurs du monde entier. Dernièrement, le MEDEF, ce syndicat patronal, n'a cessé de gémir. Pas question pour eux d'être taxés pour éponger la dette de l'État, même par cette petite taxe Zucman qui les égratignerait à peine. Les grands patrons pleurent la bouche pleine et ils en veulent toujours plus de leur larbin politique au gouvernement. C'est pour ça qu'ils les usent. Ils pleurent sur leurs charges trop importantes, mais ces charges, elles sont prises sur la masse salariale, sur les richesses créées par les travailleurs. Ils veulent moins cotiser pour les retraites, alors le gouvernement repousse l'âge de départ. Moins cotiser pour la sécu, moins cotiser pour le chômage, ou pas du tout d'ailleurs, s'ils y arrivent, on réduit les remboursements et les durées d'allocation, etc., etc. Et le gouvernement est toujours à leur écoute. Pourtant, les capitalistes vont bien, et les plus gros, très bien même. Ils n'ont jamais concentré autant d'argent entre leurs mains. La fortune des 500 premières familles bourgeoises de ce pays a été multipliée par 12 en moins de 30 ans. Bernard Arnault, un des capitalistes les plus riches de ce pays, celui qui susurre à l'oreille de Macron, gagne un SMIC toutes les 15 secondes. Ces fortunes ne viennent pas de rien. Pour les capitalistes, pour que les capitalistes concentrent entre leurs mains des centaines de millions et des milliards, il faut des millions de travailleurs qui triment, payés au lance-pierre, dans les pays riches comme ici, mais aussi dans les pays pauvres, doublement exploités. Loin d'être à plaindre, cette classe bourgeoise détient tous les leviers du pouvoir. Ils ont à leur botte les gouvernements, les administrations de l'État et l'écrasante majorité des politiciens. Au travers des journaux, des chaînes de télé et des réseaux sociaux qu'ils possèdent, ils ont le pouvoir médiatique et déversent leur propagande 24 heures sur 24. Et ils ont à leur service la police et l'armée. Et quoi qu'en dise Sarkozy, ils ont aussi la magistrature et sa justice de classe. Sarkozy a beau crier au complot, il n'en reste pas moins qu'il a fallu bien des magouilles, des coups tordus de sa part et de sa clique de racailles en col blanc pour qu'il fasse enfin un séjour en prison pour association de malfaiteurs. Mais ce sera certainement de courte durée, quoi. Notons au passage qu'aucun tribunal ne l'a inculpé pour avoir semé le chaos et la guerre en Libye, 15 000 morts, en laissant une région dévastée. Les guerres de l'impérialisme, elles, sont tout à fait légales. Pour nous faire les poches, aggraver nos conditions de vie et de travail, le gouvernement a trouvé un prétexte qui a déjà beaucoup servi, la dette. Certes, cette dette coûte cher en intérêt aux caisses de l'État, mais elle fait d'abord le bonheur des financiers prêteurs. Cela, personne ne leur demande rien. Ils seront remboursés rubis sur ongles, intérêts élevés compris. Et ces 3 000 milliards de dettes ne sont pas allés dans nos poches, comme l'affirme le gouvernement et les médias à sa botte. Bien au contraire. Depuis des années, nous sommes de plus en plus taxés. Nos salaires sont en berne. L'inflation plombe nos porte-monnaies. Il est devenu difficile de se soigner, de trouver une place adaptée pour son enfant handicapé ou ses parents âgés. Les conditions d'enseignement se dégradent. Des jeunes sont laissés à la rue faute de moyens pour l'aide à l'enfance. Alors non, cette dette n'est pas la nôtre. Elle a servi principalement au fil des ans à gaver les plus riches. Alors c'est à eux de la rembourser. Dernièrement, une enquête parlementaire a mis en évidence les aides diverses et variées aux entreprises, surtout aux plus grandes, les mieux servies, qui se montraient à 211 milliards. Une autre enquête parle de 270 milliards. L'État lui-même ne sait pas vraiment combien, tellement le robinet est ouvert, sans contrôle, sans contrainte. Patrons et gouvernants nous disent que c'est pour l'emploi. Mais bien de ces grands groupes ont annoncé des licenciements et fermé des usines. Michelin, Auchan, Sanofi et près d'ici Vancorex, Arkema, ST Microélectronique et d'autres. À ces milliards, on pourrait rajouter tous les cadeaux des gouvernements de droite et de gauche, et là aussi ça fait beaucoup beaucoup de milliards, aux entreprises privées, comme toute une partie de la santé placée aux cliniques privées et labos privés, les autoroutes, la gestion de l'eau et d'autres services, les cadeaux exorbitants à l'industrie pharmaceutique qui plombent le budget de la Sécu et j'en passe. Oui, les capitalistes vivent sous perfusion de l'État, c'est-à-dire avec notre argent, celui de nos taxes et impôts. Alors voilà pourquoi il n'y a plus d'argent pour les services utiles à la population. Marx disait déjà au XIXe siècle que l'État était le conseil d'administration de la bourgeoisie. Eh bien, ça n'a pas changé depuis, et le système s'est même perfectionné. Et ceux qui pensent à gauche qu'il faudrait, pour que tout s'arrange, plus de justice fiscale, taxer les multimilliardaires ou une meilleure répartition des richesses, comme ils disent, eh bien, tout ça, c'est du blabla. Jamais aucun impôt n'a fait mal à un capitaliste, pour la simple raison qu'ils ont toutes les ficelles pour y échapper. De l'optimisation fiscale, conseillée par une armada de cabinets spécialisés, jusqu'aux paradis fiscaux. Et à supposer qu'ils en payent, qui dit que cet argent irait ensuite à des investissements utiles à la population? Qui peut garantir qu'il ne retournera pas dans la poche des bourgeois ou dans l'armement? Réclamer une meilleure répartition des richesses, c'est la mode à gauche et dans les syndicats. Mais ces richesses, elles ne viennent pas de rien. Elles sont le fruit de l'exploitation de millions de travailleurs à travers le monde. Et si elles sont devenues considérables, eh bien c'est parce que cette exploitation s'est intensifiée avec la crise. Alors, on ne veut pas une meilleure répartition de notre exploitation. On veut tout de suite des embauches, de meilleurs salaires et pensions, et on veut en finir avec l'exploitation, en finir avec l'appropriation de notre travail par une classe de parasites. Oui, on ne veut pas de leurs miettes, on veut tout le gâteau et même la boulangerie. Leur richesse, leur yacht, leur château, leur luxe, c'est du vol. Alors la seule justice sociale valable sera leur expropriation. Ce sont les travailleurs qui font tourner toute la société, de la femme de ménage à l'ingénieur, en passant par l'ouvrier et l'infirmière. Alors ils doivent la prendre en main et décider collectivement le meilleur pour l'humanité et ne plus accepter qu'une minorité impose sa dictature du fric. Alors oui, aujourd'hui, on est loin du niveau de conscience qui serait nécessaire à la classe ouvrière pour réagir à la hauteur des attaques. Mais comment s'en étonner? Les confédérations syndicales ont mis 6 semaines à réagir aux attaques de Beyrouth. Elles qui n'ont pas voulu rejoindre le mouvement du 10 septembre, sauf la CGT qui a appelé timidement, poussée par une partie de sa base, et ont appelé 8 jours plus tard, le 18 et le 2 octobre, histoire de montrer que ce sont elles qui décident et maîtrisent. Maîtrisent quoi d'ailleurs, on se demande, puisqu'ensuite, quel est le plan pour faire céder le patronat et le gouvernement? Eh bien, aucun. Les travailleurs ne doivent plus se contenter d'être juste une masse de manœuvre qu'on siffle si besoin. Pour permettre aux chefs syndicaux de retourner négocier autour du tapis vert à Matignon. Il faut que dans toutes les entreprises, les services publics, les travailleurs se réunissent, échangent, posent leurs revendications, n'attendent pas le prochain mauvais coup du gouvernement pour sortir les banderoles. Il faudra qu'ils s'organisent dans des comités de lutte ou de grève et qu'ils dirigent eux-mêmes leur mouvement en élisant les meilleurs d'entre eux, ceux en qui ils ont une confiance totale. Certes, aujourd'hui nous sommes confrontés à la démoralisation des travailleurs, au manque de confiance dans notre propre classe sociale. Les grèves sont minoritaires. Mais même minoritaires et isolées, les travailleurs peuvent se défendre et apprendre par des petites luttes à s'organiser, prendre confiance en eux, et ça c'est très important pour préparer l'avenir. Je vous donne un exemple, l'an dernier, nous avons salué la grève des femmes de ménage de l'entreprise Elior de Richebourg. Il y en a dans la salle. Qui a duré 1 mois et demi au total. À une trentaine, par leur unité et leur détermination, elles ont gagné et fait reculer ces deux grands groupes. Cette année, une partie d'entre elles, sur un autre chantier, ont exporté la lutte chez Atalian, un autre mastodonte du nettoyage, qui comptait supprimer 3 postes, comme l'autorise la convention collective, en cas de reprise d'un chantier. Eh bien, les 16 salariés n'ont pas attendu la réunion du CSE ou le feu vert de je ne sais quel haut responsable syndical. En peu de temps, elles se sont mises toutes en grève et en 2 jours d'arrêt total, Atalia a ravalé son projet, même si celui-ci était légal. Karl Marx disait aussi que l'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes. Oui, il n'y aura pas de sauveur pour les exploiter, ils ne pourront compter que sur eux-mêmes. Quand nous défendons cette idée d'organisation démocratique des travailleurs à la base, nous défendons en réalité les idées communistes révolutionnaires. Ces idées seront indispensables dans les luttes de demain. Parce que bien au-delà de la défense contre les attaques actuelles de la bourgeoisie, les travailleurs devront, tôt ou tard, se poser la question de changer le monde en se débarrassant du capitalisme. Parce que rien n'est possible si on laisse les manettes de l'économie aux capitalistes. Tous les partis de gauche et Le Pen orientent leur politique contre Macron. Mais changer la marionnette au pouvoir, sans parler de s'attaquer à ceux qui détiennent le vrai pouvoir, les capitalistes, c'est nous leurrer et nous tromper. C'est comme cela que la gauche au pouvoir a laissé le terrain à la dépolitisation, au défaitisme, pire, aux idées réactionnaires de l'extrême droite qui pointe son nez à chaque crise du système. Ici, le RN n'est pas encore au pouvoir, mais il fait déjà ses offres de services au MEDEF. Dans une longue lettre au patron, Bardella montre que le RN sera aussi à genoux devant les puissants. Et s'il est un terrain où tous les partis, de l'extrême droite à la gauche, se retrouvent, c'est bien sur le terrain du nationalisme. Tous défendent le patriotisme, les entreprises françaises, bien de chez nous, en s'en prenant à la concurrence étrangère. Dernièrement, Mélenchon a félicité le marchand d'armes Dassault pour avoir résisté à la concurrence allemande lors du choix du futur avion de combat européen. Comme s'il était mieux de tuer français. En Isère, cette année, nous avons eu droit au même discours lors de la fermeture de l'usine Vancorex à Pont-de-Clé et d'une partie de celle d'Arkema à Jarry. Les élus politiques de droite comme de gauche, du PS à LFI, en passant par le PCF, les chefs syndicaux venus sur place, ont tous dénoncer la concurrence déloyale de la Chine, qui serait responsable de la fermeture de nos industries, comme si la concurrence entre capitalistes chinois ou autres avait été un jour loyale, et si les capitalistes français exploitaient loyalement la main-d'œuvre en Chine. Les riches actionnaires de Vancorex, mais aussi ceux de toutes les grosses entreprises qui se sont succédées sur le site et se sont engraissées de profits de subventions, laissent un site ultra pollué. Des familles dans la détresse, mais aucun n'est inquiété. Alors pourquoi cette démagogie anti-chinoise de la part de soi-disant défenseurs des travailleurs? Eh bien, dans un seul but, détourner les yeux des vrais responsables des licenciements et démontrer que nous aurions finalement les mêmes intérêts que nos patrons bien français. C'est une politique dangereuse qui prépare les esprits au nationalisme et peut-être demain à une guerre contre la Chine. C'est pour cela qu'il nous faut redoubler d'efforts pour diffuser à nouveau dans les consciences les idées de lutte de classe, expliquer que ce monde est divisé en deux classes sociales, les exploités et les exploiteurs, les prolétaires et les bourgeois. Expliquer que notre ennemi n'est pas le migrant qui fuit la misère, ni le travailleur étranger, ni le chômeur, le retraité qui profiterait du système. C'est sur cette absence de conscience de classe que prospèrent aujourd'hui les idées pourries du racisme, de l'islamophobie, du nationalisme et du protectionnisme. Et demain, vu le climat guerrier d'aujourd'hui, ils nous demanderont tous d'aller servir de chair à canon pour défendre la patrie, en vérité pour défendre les intérêts des plus riches, comme ils l'ont déjà fait pour toutes les guerres, y compris les guerres coloniales. Alors non, disons haut et fort que nos ennemis sont dans nos propres frontières. Ce sont les capitalistes d'ici et leurs serviteurs politiques. Et militons partout pour faire tomber ces frontières dans la tête des exploités, proclamons haut et fort ce slogan internationaliste du monde ouvrier, « Travailleurs de tous les pays, unissons-nous ». L'économie capitaliste est en crise. Elle est dans la même impasse que celle qui a déjà conduit à deux guerres mondiales. La concurrence entre grands groupes, entre pays, fait rage. Les capitalistes ont un besoin permanent de déboucher pour leurs capitaux. Ils doivent pouvoir réinvestir sans cesse leurs profits pour en réaliser de nouveaux. Ceux qui n'y arrivent pas font faillite ou sont absorbés par les plus gros. Cette concurrence sur le marché mondial de plus en plus dure et acharnée engendre les guerres commerciales entre grands groupes contre leurs sous-traitants et contre ceux des pays rivaux. Et quand ils ne rapportent pas assez, les capitaux vont se placer dans la spéculation plutôt que dans l'investissement productif et menacent la planète d'un nouveau krach financier. Sur le terrain du climat et de l'environnement, l'irresponsabilité des capitalistes n'est plus à démontrer. Elle engendre des catastrophes climatiques de plus en plus graves, la pollution des continents et des océans. Pour dominer le monde, accéder aux matières premières, écarter des concurrents menaçants, le cynisme et la brutalité d'un Trump illustrent bien ce monde de rapaces. Trump n'est pas fou, il est le vrai visage de l'impérialisme, sans phare, du capitalisme qui a enserré le monde entier dans les griffes du capital financier. Trump a sorti le gros bâton du protectionnisme, des droits de douane pour tenter de protéger les capitalistes américains. Ses concurrents ne sont pas de taille à l'affronter et n'ont d'autre choix que de s'y plier. Alors il faut bien comprendre que dans ce contexte de crise, pour maintenir leurs profits, la seule solution pour les capitalistes est d'aggraver l'exploitation des travailleurs et il n'y a pas d'autre solution. Et pour faire appliquer cette politique, les gouvernements devront être de plus en plus autoritaires. La politique de Trump aux États-Unis qui terrorise les étrangers, y compris ceux qui ont des papiers en règle, et travaille intimide les opposants à sa politique. Trump fournit un modèle aux prétendues démocraties occidentales. Et ici, ils sont nombreux, à commencer par les Le Pen, Retailleau et Zemmour. Cette évolution autoritaire est à relier à l'évolution vers une prochaine guerre générale de plus en plus évidente. Toutes les grandes puissances s'arment et allouent des budgets faramineux à leur défense, comme ici en France. Le Canard enchaîné a révélé en août dernier qu'une note du ministère de la Santé enjoignait aux agences régionales de santé de mettre en place d'ici mars 2026, l'an prochain, un plan pour que les hôpitaux puissent accueillir jusqu'à 500 000 blessés de guerre. Cette note met en lumière que les chefs d'état-major et les ministères préparent méthodiquement la prochaine guerre. Mais dans le monde, ils sont des milliers à la connaître déjà. Au Moyen-Orient, Israël poursuit ses guerres avec toujours plus de barbarie. À chaque étape de son génocide, Netanyahou est soutenu par les États-Unis. Leur paix qu'ils viennent de proclamer après 2 ans de massacres et de destruction permettra peut-être un peu de répit pour les Gazaouis. Mais une véritable paix dans la région est illusoire. Elle ne sera possible que si les peuples palestiniens, israéliens, libanais, jordaniens, égyptiens se soulèvent, rejettent la politique de leurs dirigeants respectifs, mais aussi celle de l'ordre impérialiste qui a mis cette région riche en hydrocarbures en couple réglé sanguinaire depuis longtemps. Et alors on réaliserait qu'il y a de la place pour les deux peuples, israéliens et palestiniens, pour que ces deux peuples vivent ensemble de façon égalitaire et démocratique dans cette région. Cette révolution est peut-être utopique, mais pas plus que de demander aujourd'hui un État palestinien sur des ruines fumantes, des territoires morcelés et rétrécis, sans richesse économique, entourés de barbelés. En Ukraine, la guerre continue malgré les promesses de Trump d'y mettre fin. Sa politique violente et cynique a montré la terrible réalité de ce conflit, se partager avec Poutine les richesses de l'Ukraine comme des rapaces sur une montagne de cadavres. Voilà bien la confirmation de ce que nous disions dès le début de cette guerre sur la responsabilité des impérialismes américains et européens dans cet engrenage guerrier. Partout sur la planète, derrière les guerres et la barbarie, eh bien, il y a la politique des grandes puissances. Dans l'est du Congo, RDC, là où les morts se comptent par millions, dans la plus grande indifférence, les capitalistes se déchirent les parts du pillage des minerais indispensables aux nouvelles technologies ici. Quand ce n'est pas la Russie qui est présentée comme une menace, c'est la Chine qui menacerait la paix dans le monde. Mais il n'existe aucune base chinoise, aucun porte-avions chinois au large des États-Unis ou près de l'Europe. Par contre, toute une armada impérialiste mouille au large de la Chine. Alors, aucune des menaces qui pèsent sur les exploités, que ce soit les plans d'attaque qui se succèdent, comme les licenciements de plus en plus nombreux, contre ces conditions de vie et de travail, ou plus fondamentalement la marche à la guerre, ne pourra être enrayée sans arracher la direction de la société aux capitalistes. Alors oui, le gouffre est immense entre ce programme exigé par la situation générale et le degré actuel de conscience et de politisation des travailleurs. Mais en période de crise, les choses peuvent évoluer très vite, très très vite, vers le pire comme pour le meilleur. Regardez les révoltes aujourd'hui à travers le monde, au Bangladesh, au Sri Lanka, celles des jeunes qui se dénomment Génération Z, au Népal, à Madagascar et plus près de nous au Maroc. Eux, passifs hier, ont trouvé le chemin de l'organisation et le courage d'affronter des dictatures. Eh bien, ils ont tout notre soutien et bravo à eux. Tôt ou tard, des femmes, des hommes, des jeunes comprendront qu'il ne suffira pas de s'en prendre aux seuls gouvernants, qu'il faudra faire tomber aussi tous les exploiteurs, les profiteurs de la misère, la classe des riches et des parasites. Ceux-là sont organisés. Ils ont des organes de répression à leur disposition, la police, l'armée. Alors face à eux, il faut aussi que les prolétaires aient à leur disposition un outil puissant, un parti organisé, démocratique, prêt à se lancer dans la bataille pour changer le monde. Alors rien ne sert de pleurer, au contraire, il faut être à l'offensive. Il faut s'atteler à rebâtir un parti communiste révolutionnaire pour s'organiser et préparer l'avenir, car soyez-en sûrs, l'histoire montrera que ce système capitaliste à l'agonie doit laisser la place à une société plus juste, fraternelle et égalitaire, digne du 21e siècle, à une société vraiment communiste. Alors disons-le haut et fort, si tu veux en finir avec la misère, l'exploitation, le mépris, les inégalités et les guerres, alors prépare la révolution. Toutes ces idées que je viens de développer, nous les défendrons, pour revenir à, un peu sur Terre, si on peut dire. Nous les défendrons lors des élections municipales qui auront lieu en mars prochain. Il y aura des listes luttes ouvrières dans plusieurs villes de l'Isère et dans toute la France. Personnellement, je conduirai la liste dans cette ville à Échirolles. Alors aidez-nous dans cette campagne, aidez-nous à compléter nos listes de candidats, aidez-nous à en discuter autour de vous, à faire voter pour nos candidats. Et en attendant, profitons tous de la fête, et c'est une tradition, chantons ensemble le chant révolutionnaire de l'Internationale.